wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh.
Radio X.
C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes.
Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher.
Et si nous pouvions donner à chaque vie la chance qu'elle mérite.
Igor, aide-moi à changer le monde.
Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister.
Maintenant ! Ah ! J'ai réussi. Il est vivant.
Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre ?
Je pourrais faire beaucoup plus.
Prenez garde, Monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée.
Je rêve d'une armée d'un million d'immortels à ma disposition.
Victor, vous m'aviez promis que votre but, c'était la vie.
C'est désormais tellement plus.
Vous êtes un meurtrier!
Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X, tel que promis par notre animateur de Radio X-Files, Christian Page. On se plonge dans l'univers de Frankenstein ce soir.
Oui, l'un des vilains favoris du cinéma, hein, c'est lui et Dracula ont été les personnages.
Les pionniers, hein?
Les pionniers du cinéma d'horreur. D'ailleurs, il y a une histoire assez amusante. Le premier film de Dracula, comme on n'avait pas les droits de Bram Stoker ou des héritiers de Bram Stoker, on a décidé de changer le nom. Donc, le personnage s'appelle Nosferatu. Mais
oui,
jamais Dracula.
Le vampire,
donc, donc c'est le vampire Nosferatu. Mais bien sûr, on s'était inspiré du roman de Bram Stoker, Dracula, pour faire cette histoire. Mais la raison pour laquelle Nosferatu ne s'appelle jamais Dracula, c'est parce qu'on n'avait pas acquis les droits auprès de la famille de Bram Stoker. Cela étant dit...
Ils ont compris après que ça allait être payant.
Oui, c'est ça. Donc, parmi nos vilains favoris, bien sûr, il y a Dracula et Frankenstein. Dans le cas de Dracula, on a souvent évoqué... moi-même, j'ai fait une émission à un moment donné avec Marceau et on avait parlé de Vlad l'Empaleur, Vlad III, qui a été l'un des éléments qui a inspiré Bram Stoker. Hein, le roman de Dracula paraît en 1897. Bram Stoker va s'inspirer pour son personnage du comte Dracula, son histoire de vampire. Il va s'inspirer en fait de trois éléments. Hein. Le premier élément est une petite nouvelle parue en 1819, donc 70 ans plus tôt, et une petite nouvelle qui a été adaptée en pièce de théâtre, qui a été une pièce signée par un certain docteur John Polidori. On va revenir parce qu'il joue un rôle dans notre histoire de ce soir. Donc John Polidori en 1819 publie donc cette petite nouvelle. Vampire, avec un Y à la place du I, hein, V-A-M-P-Y-R-E. Donc, il peut arriver que tu vois cette orthographe lorsqu'on parle de vampire, alors tu sauras que ça vient de John Polidori.
Okay.
D'ailleurs, une controverse, là, est-il essentiellement l'auteur de cette nouvelle? On y reviendra, mais bon, bref, John Polidori publie en 1819 la nouvelle de Vampire, adaptée éventuellement au théâtre. Et puis, au 19e siècle, dans ce qu'on a appelé l'époque gothique de la littérature, le personnage du vampire va être récupéré dans quelques écrits, mais de manière très très secondaire. Et c'est de ça, c'est de cela, et finalement, d'un personnage dont on garde le souvenir dans l'histoire, un prince de Valachie. La Valachie, c'est une partie de l'actuelle Roumanie, qui englobe une partie également des montagnes, des Carpates. Et donc, au 15e siècle, on avait un personnage, un prince qui s'appelait le prince Vlad, qui est passé à l'histoire à cause de sa grande cruauté, dit-on. Mais, c'est un détail assez amusant. Moi, quand je suis allé en Roumanie, je parlais des gens de Dracula. Hein, parce que, bon, Vlad III, dit Vlad l'Empaleur, portait également le nom de Vlad Dracula. Donc, dans le roman de Bram Stoker, c'est le comte Dracula. Dans la réalité, Vlad III était un prince de Valachie. Donc, il dirigeait cette région-là il gouvernait sur cette région-là de la Roumanie. Et, pourquoi Dracula? Ben, parce que un autre des patronyme de Vlad III était Vlad Dracula, parce que son en roumain, ajouter le suffixe la signifie le fils de. Donc c'était Vlad, le fils de Dracul. Et Dracul en roumain veut dire à la fois dragon et diable.
Ben voilà, mais, diable. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de satanique. Ouais,
mais, oui, mais dans ce cadre-là, donc les deux interprétations sont bonnes. Mais comme le père de Vlad, qui s'appelait Vlad Dracul, il faisait partie d'un ordre qu'on appelait l'ordre des dragons. Donc, lorsque l'on parle de Vlad Dracula, on veut dire Vlad, le fils de Dracul, mais qui veut dire également le fils du dragon. Et non pas dans le cas de cette interprétation, ce n'est pas le diable, mais le dragon à laquelle on fait référence lorsqu'on utilise le mot Dracul. Mais quelque part, Bram Stoker avait entendu parler de ce personnage passé à l'histoire pour sa grande cruauté. Mais comme je te disais, lorsque j'étais en Roumanie, les Roumains, eux, ne voient pas Vlad Dracula de la même façon pour eux. C'est un héros national. Et d'ailleurs, ça pose un problème parce que il y a un tourisme, bien sûr, qui s'est développé en Roumanie où on visite les anciens lieux forts de Vlad Dracula, mais les gens ont en tête l'idée du vampire, alors que Dracula ou Vlad III n'a jamais bu le sang de ses victimes. Et on essaie un peu de se débarrasser de cette image du vampire, mais en même temps, ça attire le tourisme, donc on essaie de ménager la chèvre et le chou.
Surtout en Roumanie, me semble, ouais. C'est là que c'est concentré pour les vampires, non?
Ben, en fait, c'est toute l'Europe de l'Est, mais c'est vrai que le mythe du vampire est très présent en Roumanie et en Pologne. Donc, c'est vrai que le personnage de Vlad Dracula, Vlad III est passé à l'histoire pour sa cruauté, mais comme je le mentionnais, pour les Roumains, hein, c'est un héros national parce que sa cruauté, principalement, a été de faire empaler. On raconte selon l'histoire, là, on aime beaucoup exagérer en histoire, on raconte qu'il aurait empalé 10 000 personnes.
Ouf.
Mais faut savoir un peu le contexte. Hein. À ce moment-là, la Valachie se défendait contre une invasion ottomane, donc les Turcs ottomans qui essayaient de pénétrer en Valachie. Et à un moment donné, Vlad III, c'est vrai que c'est un personnage cruel, même pour ses propres populations, il était cruel. Mais dans l'histoire de la forêt des empalés, hein, qui va lui valoir ce titre de Vlad l'Empalé, à un moment donné, il avait envoyé ses troupes militaires sur le front est de la Roumanie ou de la Valachie pour combattre l'ennemi ottoman. Et au dernier moment, ses conseillers militaires lui ont dit, finalement, les Ottomans ne nous attaqueront pas sur le front ouest, mais ils vont nous attaquer de l'autre côté. Alors, comme il était trop tard pour déplacer les armées de Vlad a pris une décision ultime. Il a dit, OK, puisque les Ottomans vont nous attaquer sur le front est, comme on ne peut pas déplacer nos troupes sur le front Est parce qu'il est trop tard, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Et selon la légende, il aurait demandé à ses conseillers militaires « Combien avons-nous de prisonniers ottomans dans nos prisons? » Et on lui aurait répondu « 10 000 ». Alors il a dit « Faites-les empaler sur le front Est ». Et c'est comme ça qu'on a empalé les 10 000 personnes, les 10 000 prisonniers turcs. Et on raconte que lorsque les Ottomans sont entrés sur le territoire de la Valachie, lorsqu'ils ont été confrontés à cette forêt d'empalés, les troupes ottomanes ont reculé. Et ainsi, Vlad a sauvé la Valachie de l'invasion des Turcs ottomans. Si les Turcs ottomans avaient pris possession de la Valachie, cela aurait signifié l'imposition de l'islam sur toute cette partie de l'Europe. Donc, tu comprends que pour les Roumains, c'est vrai que Vlad était cruel, comme je te dis, même pour ses populations. Hein. On raconte qu'à un moment donné, un de ses conseillers lui a dit « il faudrait faudrait régler un peu le problème de la pauvreté lorsque l'on va dans des villes comme Tirkovich, qui est un peu le château fort de Vlad. Il dit, il y a plein de mendiants. Alors Vlad, il dit, ben parfait, il dit, on va les inviter dans un grand banquet. Alors, dans son château de Tirkovich, il a fait monter une salle de banquet. Dans la cour, en fait, il a fait installer des tables et il a invité toutes les pauvres de la région. Donc, par centaines, ils sont venus à ce banquet et une fois qu'ils étaient attablés et qu'ils mangeaient ce banquet, Vlad a fait fermer les portes du château et a mis le feu dans la place. Donc, tous les gens sont morts brûlés. Et Vlad s'est tourné vers ses conseillers et dit, voilà, le problème de la pauvreté à Tirkovich est réglé.
Ouais.
Bon, donc tu vois un peu le personnage, on lui parle. Bon, il y a là-dedans, bien sûr, il y a à moitié légende, à moitié fait historique, à moitié fait déformé, mais tu comprends que pour les Roumains, Vlad III, dit l'Empaleur, dit aussi Dracula, est un personnage haut en couleur, mais qui est considéré comme un héros national. Mais néanmoins, sa cruauté avait quand même gagné l'Europe, et donc au 19e siècle, on parlait de ce personnage qui était tout à fait monstrueux, avec ce qu'il avait, les tortures qu'il avait imposées à son propre peuple, mais également à ses ennemis. Donc, on en parlait comme ça à mots couverts. Oui, voilà, dans cette région de la Roumanie, ce personnage monstrueux, Vlad Dracula. Il faut savoir aussi qu'un élément qui a beaucoup contribué à la popularité du personnage de Dracula et de ses horreurs qu'il imposait, c'est on arrive au tout début de l'imprimerie. Donc, on a un moyen de diffuser par écrit les crimes commis par Vlad. Donc, ses ennemis politiques vont en profiter pour imprimer des pamphlets qui seront distribués, qui racontent les ignominies de Vlad. Et il y a une image qui va marquer l'imaginaire où on voit le prince Vlad avec une table en train de lui-même de manger et de se restaurer. Et devant lui, il y a cette fameuse forêt d'empalés qui lui est associée là, au niveau du mythe.
Donc, comme cette image-là, une caricature?
Non, c'est comme un dessin, une espèce de gravure. Hein, qui est propre aux gravures du 15e, 16e siècle. Okay. Et comme on voit, évidemment, tu comprends que dans l'imaginaire, cet homme attablé en train de se restaurer devant lui ses centaines, sinon ses milliers de personnes empalées, c'est quelque chose de tout à fait monstrueux. N'eût été de l'imprimerie probablement que le mythe de Vlad l'Empaleur, Vlad III ou Vlad Dracula, peu importe le nom qu'on lui donne, ce serait beaucoup moins répandu dans l'Europe. Mais à cause, bien sûr, de l'imprimerie, pas sa popularité, mais ses horreurs ont été véhiculées et le personnage est devenu mythique. Donc, lorsque Bram Stoker écrit son fameux roman, il s'inspire de cette petite nouvelle de John Polidori, il s'inspire du mythe du vampire qui circule déjà, et comme il a besoin de créer un personnage, un esthétisme au personnage, ben, au lieu de choisir un prince de Valachie, ben, il va choisir un comte roumain, qui est le comte Dracula, et le nom, ben, il l'emprunte directement au personnage. Et c'est ainsi que la trame du roman Dracula va être construite et publiée en 1897 et devenir l'un des romans les plus populaires de tous les romans d'horreur jamais écrits. Mais il n'est pas le premier roman d'horreur. Le titre de roman d'horreur ou d'anticipation, en fait, il a été attribué 70 ans plus tôt à une femme, Mary Shelley, qui a écrit un roman tout à fait étonnant qui s'appelle Frankenstein, ou le nouveau le Prométhée moderne. Hein, le sous-titre était le Prométhée moderne. Mais ce roman de Frankenstein est publié en 1818. Et même l'histoire de ce roman-là, comment Mary Shelley va écrire le roman, est tout à fait fascinant. À lui seul, il vaut un détour dans l'histoire. Hein. On se trouve en 1816, donc 2 ans avant la publication du roman, on se trouve une vaste villa sur les bords du lac Léman, en Suisse, la villa Diodati, qui a été louée par un certain Lord George Gordon Byron, un personnage assez sulfureux, un poète du début du 19e siècle en Angleterre. Puis le personnage est sulfureux parce qu'il critique le pouvoir en place. C'est un individu qui a une très haute estime de lui-même. Et pour ses ennemis, il faut dire que Lord Byron est né avec un pied beau, donc il marche en boitant. Et il y a une espèce de rumeur populaire qui dit que les suppôts du diable boitent. Donc, bien sûr, Lord Byron boite, donc il est forcément quelque part encoquiné avec le diable. Donc, Lord Byron, qui est un personnage, je dirais, ce sont des marginaux. Hein. Le groupe dont je vais te parler, ce sont un groupe de marginales, des poètes, des gens de la haute, hein, qui ont quand même une forte réputation, mais ce sont quand même des marginaux dans la mesure où leur pensée, certains diront que leur pensée était contre l'État, d'autres diront qu'ils avaient une pensée qui était progressiste et libérale, mais peu importe, à cette époque, Lord Byron donc loue la villa Diodati et décide d'inviter deux de ses amis, à savoir le poète anglais Percy Shelley et également son ami et amant, le docteur John Polidori. Le même John Polidori qui va publier la nouvelle The Vampire. Et à ce moment-là, donc, ses trois amis décident de se rendre à la Villa Diodati et Percy Shelley est accompagné de sa copine, entre guillemets, de l'époque, hein, son amoureuse, qui s'appelle Mary Wollstonecraft Godwin. Cette Mary Wollstonecraft Godwin est elle aussi d'une famille très réputée. Sa mère, d'ailleurs, a été l'une des instigatrices du mouvement féministe en Angleterre. C'était une institutrice très importante. Et elle va donc instaurer ce mouvement féministe. Donc, tu comprends que Mary elle-même, la fille, va endosser ces idées libérales qui ont été avancées par sa mère et qui choquent quand même la société britannique de ce début du 19e siècle. Donc, Mary Wollstonecraft va accompagner son amoureux, Percy Shelley. Elle va se rendre, elle aussi, à la Villa Diodati. Donc, on s'imagine ce groupe, Percy Shelley, Mary Shelley, qui va devenir éventuellement Mary Shelley, le docteur Polidori et Lord Byron. Donc, ils sont là, ils s'offrent des croisières sur des sorties, ils ont un bateau, ils ont de longues sorties sur le lac Léman, parcourent les jardins, discutent, on philosophe. Ce sont des gens, comme je l'ai mentionné, des intellectuels, ils forment une élite, même s'ils sont considérés comme marginales par leur pensée. Ils forment quand même une élite intellectuelle, ce sont des gens de lettres. D'ailleurs, le docteur John Polidori, c'est un docteur en médecine, mais c'est également un homme de lettres. Lord Byron est lui-même écrivain et poète. Percy Shelley, également un grand poète, qui va écrire des pièces qui seront maintes et maintes fois reprises dans le théâtre britannique. Pas aussi grand que Shakespeare, on le comprend bien, mais c'est quand même un nom important dans la littérature et la poésie britannique. Donc, ces gens-là sont tous réunis. Et puis, à un moment donné, Lord Byron dit « Ben voilà, pourquoi ne pas prendre la nuit pour pondre une histoire horrible, terrifiante. » Donc, chacun s'isole dans son coin. On ne sait pas ce que Lord Byron va écrire. On sait que John Polidori va apparemment écrire The Vampire, mais il y a une controverse parce que l'écriture de Vampire, certains spécialistes de l'écriture disent que le style d'écriture de cette nouvelle de John Polidori ressemble beaucoup trop à la forme d'écriture de Lord Byron. Donc, il n'est pas interdit que Lord Byron ait lui d'abord écrit The Vampire sous forme un peu une tentative de nouvelle qu'il a éventuellement rejetée, qui a été récupérée par Polidori, qui l'a étoffée pour en faire la nouvelle qui a été publiée en 1819 et éventuellement adaptée au théâtre. Okay. Néanmoins, cet aspect-là est un peu singulier et un peu mystérieux. Quel est le lien littéraire dans la nouvelle de Vampire entre Lord Byron et le docteur John Polidori? On ignore ce que Percy Shelley a écrit, mais on sait ce qu'a écrit Mary Shelley. Mary Shelley raconte une histoire. Donc, le lendemain, tous ces gens-là se retrouvent pour le petit déjeuner et chacun y va de son essai, de sa nouvelle composée durant la nuit. Et c'est à ce moment-là que Mary Shelley raconte son passage, hein, sa petite histoire. C'est celle d'un docteur, le docteur Victor Frankenstein, qui s'intéresse à toutes sortes de l'électricité qui est relativement nouvelle, une découverte là, qui fait sensation. On parle également beaucoup d'alchimie. C'est vraiment une période très dynamique où on est au début de ce 19e siècle. Il y a de plus en plus de nouvelles découvertes. Il y a un monde scientifique qui s'ouvre, hein, qui ouvre de nouveaux horizons. On commence à s'intéresser à l'anatomie, à des trucs plus sérieux, alors qu'avant, on se contentait de faire des saignées, puis ça guérissait toutes les maladies. Mais on voit de plus en plus des mécanismes scientifiques se mettre en place. Donc, Mary Shelley va exploiter ça. Et son docteur Frankenstein, c'est un scientifique et il va créer un monstre. On dit souvent Frankenstein, on a immédiatement en tête le monstre, mais dans la nouvelle de Mary Shelley, il n'y a pas de nom. Hein. Le monstre s'appelle le monstre, tout court. Et il est créé par le docteur Frankenstein. Et Et le roman de Mary Shelley, au départ, hein, il est publié en 1818. Ben, crois-le ou non, il est publié anonymement. Donc, personne, Mary Shelley ne veut surtout pas voir son nom associé à cette histoire-là, même si elle a eu des encouragements pour étoffer, parce qu'au début, tu comprends bien que c'est un brouillon de 2 ou 3 pages. Elle va l'étoffer, elle va faire un roman en 1818. Donc, 2 ans après cette réunion extraordinaire à Diodati, elle va publier ce roman, Frankenstein, ou le nouveau, le Prométhée moderne. Et cet ouvrage-là, initialement, la première édition, elle est publiée anonymement.
Pourquoi l'avoir fait ainsi? Parce que pour la place des femmes à l'époque ou...
Ça reste un peu ambigu pourquoi Mary Shelley a choisi de publier la nouvelle anonymement. Peut-être que l'histoire était tellement monstrueuse, mais c'est sûr qu'on regarde ça aujourd'hui, on a en tête Vendredi 13 ou Halloween, on se dit finalement le Frankenstein c'est pas si mal, mais il faut savoir à l'époque il y avait quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans ce qui était présenté.
Oui. Okay.
C'était à la fois horrible, mais ça nous mettait également d'où le fait que le titre français était traduit par le nouveau Prométhée, parce que c'était l'idée de recréer la vie à partir de la matière morte. Donc, c'était également une sorte de sonnette d'alarme contre la science. Parce que, encore aujourd'hui, on a souvent cette tendance-là à accuser les scientifiques de jouer un peu les apprentis sorciers lorsqu'ils font toutes sortes de choses. À l'époque, c'était avec l'électricité. Hein. L'électricité était une nouvelle découverte. Et là, plein de scientifiques qui faisaient des tests avec l'électricité, envoyaient de l'électricité dans des muscles, réussissaient à produire de cette manière-là, des contractions musculaires. C'était tout à fait extraordinaire. Tout ça nous semble aujourd'hui très dépassé, mais on a la même réaction quand on regarde, par exemple, les scientifiques qui... Il y a des gens qui se disent, il y a le grand collisionneur de Hadron, qui était un accélérateur de particules, qui se trouve sur la frontière de la Suisse et de la France. Et là, les scientifiques font toutes sortes d'expériences. Ils ont littéralement réussi à reproduire dans le grand collisionneur de Hadron les mécanismes qui amènent la création des trous noirs. Donc, les gens qui sont moins, qui connaissent moins la science et la physique, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, on n'est pas des spécialistes de la physique quantique et tout ça, évidemment, on a l'impression que les scientifiques jouent les apprentis sorciers. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va leur exploser au visage? Et si on, de manière un peu accidentelle, on créait un trou noir, quelle serait la conséquence sur Terre que quelqu'un dans un laboratoire crée un trou noir involontaire? Donc, tu vois, c'est cette idée de jouer les apprentis sorciers. Puis on le fait exactement, on tenait le même discours au début du 20e siècle, lorsqu'on a commencé, par exemple, à faire des chirurgies importantes, les transplantations cardiaques, par exemple, dans les années, je pense, la première transplantation cardiaque remonte aux années 60 par le docteur Christian Bernard en Afrique du Sud. Donc, ces idées-là, c'était toujours de les scientifiques jouent les apprentis sorciers. Donc, évidemment, lorsqu'il y a eu l'invention de l'électricité, lorsque les scientifiques ont commencé à faire des expériences, encore là, il y avait cette pensée populaire que les scientifiques jouaient les apprentis sorciers. Et c'est un peu ce que montre le roman Frankenstein. Est-ce que Mary Shelley, de ne pas mettre son nom sur la couverture au moment où l'ouvrage est publié, est-ce qu'elle craint éventuellement que les critiques soient mauvaises, que ces critiques-là retombent sur sa famille, qui est quand même des gens importants, des gens...
C'est ça.
Même si sa mère a lancé le mouvement féministe, qui est extraordinaire, son père, M. Godwin, était également un auteur et un scientifique. Donc, est-ce qu'il y a des retombées qui risqueraient éventuellement d'éclabousser la famille? Elle ne veut pas non plus faire ombrage à son mari, Percy Shelley, qui est un poète. Donc, et évidemment, tu comprends que les écrits de Percy Shelley sont très éloignés des écrits de Mary Shelley avec son Frankenstein. Donc, il peut y avoir toutes sortes de considérations très personnelles qui vont faire qu'elle ne mettra pas son nom sur la couverture de la première édition de Frankenstein, mais dans les éditions subséquentes, évidemment, le roman devient un grand succès. Il est considéré aujourd'hui comme le premier roman d'anticipation de science-fiction et d'horreur, dans les trois styles mêlés à la fois. Et dans le cas donc même si l'histoire de quelle façon le roman a été pensé, hein, par cette soirée, cette nuit mystérieuse dans la villa Diodati, la question qu'on peut se poser, est-ce que un peu à l'instar de Bram Stoker qui s'est inspiré de différents courants, de différents personnages pour créer son vampire dans Dracula, est-ce que Mary Shelley s'est inspirée d'un véritable docteur Frankenstein? La réponse est non. Il y a un petit oui. D'abord, il faut savoir que Frankenstein, ce n'est pas le nom d'un personnage. Dans le roman de Mary Shelley, oui, Frankenstein est le docteur Victor Frankenstein, mais dans la réalité, il y a en Allemagne un château Frankenstein, mais ce château, le nom Frankenstein ne désigne pas une personne en particulier, mais plutôt un lieu. Hein, c'est un château qui se trouve là, tout près de la ville de Darmstadt. On est au centre-ouest de l'Allemagne. Et c'est un château qui était construit aux alentours de l'an 1250 par Lord Conrad III. Donc, rien à voir avec le nom Frankenstein, si ce n'est le lieu. En allemand, Franken veut dire les francs ou le clan. Et Stein, on le retrouve dans beaucoup de... C'est un suffixe qu'on retrouve dans beaucoup de noms allemands qui signifient le lieu ou le rocher. Donc, Frankenstein veut dire le lieu... du clan et le rocher du clan. Donc, si on le fait une traduction, c'est un peu ça. Le rocher du clan ou le rocher des Francs, parce que Franken voulait dire aussi les Francs, qui étaient du côté des Français, là. Donc, on a cette définition-là pour désigner le lieu. Donc, ça devient le château de Frankenstein, mais de Frankenstein ne fait pas référence à un individu, mais à un lieu.
Et ça semble bien préservé quand on regarde les images, là. L'endroit
oui, d'ailleurs,
semble
je l'ai visité.
Accessible.
Oui, mais oui, c'est un lieu touristique, évidemment. Si tu regardes une photo, je ne sais pas quelle photo tu regardes, mais il y a une tour carrée. Il faut que tu saches que cette tour carrée a été reconstruite au 19e siècle sans tenir compte des plans originaux. Donc, à l'origine, dans le château de Frankenstein, hein, donc du lieu du clan, hein, c'est comme ça qu'on pouvait l'appeler. Donc, dans ce château, originalement, il n'y avait pas de tour carrée. Hein. C'est vraiment une sorte d'inspiration du moment au 19e siècle lorsque on a restauré l'endroit qu'on a créé cette fameuse tour carrée, mais à l'origine, ce type de tour n'était pas construite à cette époque dans cette région de l'Allemagne. On peut donc imaginer plutôt une tour qu'on dit en mâchicoulis, donc avec une espèce de rambarde autour et qui était probablement une tour ronde. Mais néanmoins, ce château de Frankenstein, du lieu, donc le Frankenstein, on sait que Mary Shelley l'a visité. Et il y a une curieuse histoire. Donc, on sait pas de quelle manière elle va associer ce Frankenstein au docteur Frankenstein, mais quand on regarde dans les écrits de Mary Shelley, il y a des journaux, elle l'a laissé après son décès, elle avait des journaux personnels. Et lorsqu'elle parle de la création du personnage du docteur Frankenstein, sans donner nommément ses sources d'inspiration, elle raconte qu'elle a visité le château Frankenstein, qu'elle a aimé ce lieu et elle va y retourner pour se familiariser avec les légendes locales. Mais c'est quoi les légendes locales? Et c'est là qu'on voit apparaître un personnage qui a, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais qui a très certainement inspiré Mary Shelley. Et ce type s'appelle Johann Conrad Dippel. Ce fameux Dippel, il est né dans le château Frankenstein. Il faut savoir qu'à un moment donné, là, à partir de 1622 et jusqu'au 18e siècle, donc pratiquement pendant 200 ans, le château de Frankenstein, donc il va y avoir plusieurs vocations, à un moment donné, même le château va être divisé en deux parties pour accueillir deux familles notables de la région. Et aucune d'entre elles ne s'appelle Frankenstein. Ce sont des familles qui dirigent, ce sont des seigneurs du Frankenstein, donc de la région, mais ils n'ont pas leur nom, leur patronyme n'est pas Frankenstein. Donc, on va séparer le château en deux parties pour accueillir des familles. Et à partir de 1622, le château va être transformé pour devenir un hôpital. Et c'est dans cet hôpital, en 1673, que naît ce Johann Conrad Dippel. C'est un personnage excessivement sulfureux. Donc, il va étudier la théologie, la physique, hein, entendons-nous, la physique de cette époque, qui a été instaurée par Newton et autres. Donc, ces éléments, ce qui demeure quand même un peu mystérieux. C'est de la science un peu mystérieuse. Il étudie, comme beaucoup des gens de cette époque, il étudie l'alchimie, également l'occultisme. Il obtient un diplôme de l'Université Giessen en théologie. Donc, on le connaît dans l'histoire, ce diplôme. On le connaît surtout comme un théologien. Mais en même temps, c'est un personnage très sulfureux parce qu'il s'affiche directement contre les réformes de l'Église. Il faut savoir qu'à partir du 16e siècle, l'Église a voulu faire renouveler un peu, réécrire un peu les dogmes de l'Église pour se séparer du protestant, romantisme naissant en Angleterre. Et à ce moment-là, ça a été un mouvement de réformistes et de contre-réformistes qui s'est opposé. Donc, Dippel va s'afficher publiquement comme étant un contre-réformiste, hein, mais en même temps, il mange à tous les râteliers. Donc, lorsqu'il est avec des anticonformistes, il y a un discours anticonformiste, et quand il est avec des conformistes, ben, il y a un discours conformiste.
Oh, ben, le donc, petit caméléon.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est un individu qui joue sur tous les tableaux. C'est un peu un escroc dans l'âme. C'est à la fois un théologien, hein, il a laissé derrière lui des écrits. C'est un grand théologien. Il a écrit plein de choses qui sont fort intéressantes. C'est également un scientifique, un alchimiste, mais il est aussi une sorte d'escroc. Et puis, il va créer à un moment donné ce qu'on va appeler l'huile Dippel, qui est supposée être une élixir de vie. Donc, tu prends ça, puis tu vas vivre jusqu'à 130 ans ou 140 ans. Il va même essayer, hein, comme il est né au château Frankenstein, il a développé un engouement pour le château. Il est devenu fasciné par le château de Frankenstein et il va essayer, il va aller voir les propriétaires du château, hein, les seigneurs qui habitent le château, et il va essayer de racheter le château en échange de sa formule de vie. Bon, ça fonctionnera pas.
Et puis, je cherche l'huile Dippel. C'était une huile qu'on dit sombre, visqueuse, avec une odeur désagréable. Et ça devait te donner la vie éternelle.
Oui, c'est ça.
Ouh, le marketing est très intéressant, Christian.
Et il obtenait cette huile-là en faisant bouillir des os et des graisses animales. Donc, tu t'imagines l'odeur que ça devait dégager, mais c'est un peu comme le sirop bâclé. Ça goûtait pas bon, mais ça marchait. C'est du moins ce que disait Dippel. Donc, il a parcouru un peu l'Allemagne. Il a même été jusqu'en Russie en essayant de vendre ses fameux élixirs. Comme je l'ai mentionné, il a essayé de racheter le château Frankenstein en échange de ses huiles. Et on dit également que Dippel faisait toutes sortes d'expériences. Hein, c'est un scientifique dans l'âme, escroc, mais scientifique dans l'âme. Et on raconte qu'il faisait toutes sortes d'expériences d'anatomie. L'une d'entre elles, et on sait, il va laisser des écrits là-dessus. Il essayait de transférer les âmes d'une personne à une autre. Donc, au moment où on décède, il croyait, comme beaucoup de gens d'ailleurs, des contemporains de Dippel, hein, il n'était pas le seul à faire ça, mais on essayait de prolonger la vie où on imaginait des mécanismes de la survie. Il faut comprendre également qu'à cette époque, il y a une vision très claire que l'homme est habité d'une âme. Donc, ce qui fait qu'on est ce que l'on est, ce n'est pas tant notre enveloppe charnelle, mais notre âme. Donc, l'idée, c'est de conserver l'âme. C'est l'âme qui nous rend éternels. Et là, Dippel, on raconte, comme lui et d'autres contemporains, et Dippel, je dis on raconte, mais c'est pas tout à fait vrai. Il a écrit un traité qui s'intitulait Malady and Remedies of the Life of the Flesh, hein, des médicaments et des remèdes pour soigner la vie et la chair. Et dans cet ouvrage, il parle des expériences qu'il souhaite faire ou qu'il a fait sur des cadavres, et il espérait au moment du décès de pouvoir transférer grâce à un mécanisme qui ressemblait à une entonnoir. Donc, il pouvait transférer l'âme d'un cadavre à un autre cadavre et insuffler la vie de cette manière-là. On raconte également que Dippel aurait été chassé, comme par exemple de la Suisse, on l'aurait également chassé de l'Allemagne, parce qu'il aurait fait des expériences sur des cadavres. Ouais. On l'aurait surpris à fouiller dans des cimetières, à essayer de sortir des cadavres, et on disait de Dippel qu'il allait mener des expériences avec l'électricité. Et si tu te rappelles bien, dans les versions de Frankenstein, l'électricité est un des éléments essentiels qui permet au docteur Frankenstein de s'écrier « He's alive, hein, il est vivant! »
Oh, oui.
Bon,
c'est le fil conducteur, c'est ce qui
voilà,
fait
donc
que
c'est cette idée de l'électricité. Mais dans les faits, historiquement parlant, tout ça est faux. C'est vrai que Dippel a fait des expériences pour essayer de transférer des âmes, hein, conserver l'âme pour éventuellement la replacer soit dans un autre humain ou dans un cadavre, peu importe. Mais l'idée qu'il a mené des expériences pour redonner vie à des cadavres, il est vraisemblable, comme beaucoup de contemporains de son époque, qu'il ait fait des expériences sur des animaux, envoyés par exemple du courant électrique dans des grenouilles ou des rongeurs comme des rats ou des animaux de laboratoire. Mais l'idée que l'histoire de Dipel qui va profaner des cimetières pour voler des cadavres et essayer de faire des créatures monstrueuses, ce sont des mythes qui sont apparus beaucoup plus tardivement et auxquels Mary Shelley n'a probablement pas vraiment été confrontée. Mais c'est vrai qu'on racontait que Dipel menait des expériences étranges. Et tout ça a abondamment circulé dans l'Allemagne, dans cette Allemagne qu'a visité éventuellement Mary Shelley. Et lorsqu'elle écrit dans ses journaux personnels, j'aimerais retourner en Allemagne, près du château Frankenstein, dans cette région-là, pour éventuellement me familiariser avec les légendes qui circulent. Il n'y a aucun doute que parmi ces légendes, il y avait le personnage de Conrad Dipel, Johann Conrad Dipel, personnage mystérieux et très sulfureux, et auquel on prête toutes sortes d'expériences. Bon, encore un peu comme Vlad III, l'empaleur, dit Dracula, la légende est sûrement beaucoup plus grande que le personnage, mais il a été suffisamment important pour laisser une trace derrière lui, et nul doute que l'idée du docteur Frankenstein lui est probablement venue en entendant parler de ce curieux alchimiste qui est décédé d'ailleurs en 1734. Il avait 60 ans.
Ah, c'est ce que je me demandais, s'il était bien vieux.
Et au moment où il est décédé, ben, il disait qu'il venait de mettre au point un élixir qui devait lui permettre de vivre jusqu'à l'âge de 135 ans. Mais c'est pas arrivé, hein, visiblement, parce qu'il est décédé à 60 ans.
Puis je me sens mal pour lui, j'y aurais souhaité. Tu sais,
c'est curieux parce que Dipel, hein, il va mourir en Allemagne. Il est allé un peu partout en Suisse, il est allé même jusqu'en Russie, comme je l'ai mentionné, mais il va mourir en Allemagne. Il meurt à l'âge de 60 ans. Selon l'histoire officielle, il décède d'une crise cardiaque, mais il y a une rumeur qui voudrait que Dipel aurait peut-être été empoisonné par un rival qui aurait fait lui aussi un élixir de vie qui voyait en Dipel, bien sûr, une espèce de d'ennemi ou un élément qui aurait perturbé le commerce. Donc Dipel aurait pu être empoisonné. Néanmoins, il faut savoir qu'on est dans une Allemagne, une Europe qui est très en mouvement, à la fois par des découvertes scientifiques, les réformes de l'Église et tout ça. Et ces éléments-là, on les retrouve fondamentalement dans le canevas du roman Frankenstein de Mary Shelley. Donc, sans aucun doute, Mary Shelley s'est inspirée de ce curieux personnage, Johann Conrad Dipel, qui a servi de canevas au docteur Victor Frankenstein.
C'est intéressant. Est-ce qu'on a à ce jour le nombre d'adaptations qui ont été faites du roman à l'écran?
J'en ai aucune idée, mais je sais que la première adaptation au cinéma date de 1931. Oui. C'était l'acteur Boris Karloff qui incarnait Frankenstein. Durant les années 60, il y avait des studios en Angleterre, les studios Hammer, qui ont connu une seconde vie là, depuis quelques années, là, après avoir fermé pendant des décennies. Mais dans les années 60, les studios Hammer ont connu énormément de succès avec des films d'horreur et qui mettaient principalement en vedette deux acteurs qu'on voyait dans à peu près tous les rôles. Il y avait Peter Cushing et Christopher Lee. Et chacun s'échangeait. Bon, Peter Cushing jouait souvent le rôle du docteur Frankenstein. Christopher Lee jouait toujours le rôle de Dracula. Et souvent, dans les films de Dracula, Peter Cushing jouait le docteur Van Helsing qui courait après Dracula. Bref, c'était les deux acteurs fétiches des studios Hammer. On les retrouvait à peu près dans tous les films. Et crois-le ou non, dans Frankenstein, c'est Christopher Lee qui joue le monstre, hein, alors que Peter Cushing joue le rôle du docteur Frankenstein.
Donc, des inséparables, pratiquement. Des
inséparables qui ont marqué les belles années des studios Hammer. Et probablement, les gens de ma génération, on se rappelle ces films qui nous ont bercés. Moi, mon enfance est associée à ces films d'horreur des studios Hammer. Quand on voyait apparaître à l'écran un Hammer film, on se disait « Wow, c'est extraordinaire! » Et le cinéma d'horreur tournait autour de ces deux acteurs fétiches qui étaient Peter Cushing et Christopher Lee. Christopher Lee qui a joué d'ailleurs Gandalf, je pense, ou quelque chose comme ça, dans le film Le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu une très, très longue carrière. Il est décédé il y a quelques années déjà, mais les nouvelles générations ont pu le connaître dans des rôles comme ceux-là, où il jouait, je crois que c'était Le Seigneur des Anneaux, où il jouait un espèce... Le Seigneur des Anneaux, il jouait un espèce de sorcier. Là. Donc, et à ce moment-là, il devait être âgé de 130 ans, là, quand il a joué ce rôle-là. Je sais pas trop, mais il est mort très âgé. âgé. Puis bon, c'est un personnage qui a marqué le cinéma d'horreur dans les années 60. Et donc, il y a eu beaucoup d'adaptations, souvent très éloignées hein, du roman
ah oui,
de Mary Shelley.
Excuse-moi, je t'interromps. Christian, oui. Il a joué aussi dans Star Wars. C'est le Comte Dooku.
Oui, oui,
effectivement. Lee, excuse-moi, elle est décédée. Ouais. Écoute, je l'apprends, le 2015.
Oui, et dans Star Wars, oui. le premier Star Wars, Peter Cushing joue le rôle d'un méchant aussi.
Hein? OK!
donc, je ne me rappelle pas le rôle, je ne suis vraiment pas un fan de la série Star Wars, mais Peter Cushing joue un petit rôle dans le premier film Star Wars qui est sorti de mémoire en 1977, je pense, oui. Avec Mark Hamill. Donc, Peter Cushing joue un rôle là-dedans d'un méchant dans L'Étoile Noire. Donc, c'est vrai que ce sont deux acteurs qui ont marqué hein, le cinéma d'horreur et qui étaient des figures populaires. De temps à autre, on les voyait apparaître dans des films, ils faisaient des petits caméo, mais dans les années 60, ils étaient les deux incontournables du cinéma d'horreur. Et lorsque les studios Hammer, en particulier, il n'y a pas que eux, mais les studios Hammer, lorsqu'ils ont fait des réadaptations du personnage du Dr. Frankenstein, ben, il y avait des suites. Hein. C'était Frankenstein, une épouse pour Frankenstein, le retour de Frankenstein, Frankenstein est toujours vivant. Donc, tu voyais, on surfait sur la vague Frankenstein qui nous éloignait beaucoup du roman de Mary Shelley, mais on ne compte plus, là. Je sais pas combien on a fait de réadaptations. Puis là, on parle essentiellement du cinéma anglophone ou francophone, mais combien de films ont pu être faits sur l'idée de Frankenstein dans des pays, par exemple, du Bloc de l'Est, en Russie, en Pologne ou en Espagne, je l'ignore, mais c'est un personnage très populaire qui marque, bien sûr, l'avènement d'une nouvelle forme de littérature, la littérature de science-fiction et d'horreur. Et encore aujourd'hui, on en parle. Et là, j'imagine que tu veux faire une pause ou quelque chose comme ça.
Oui, puis là, on a des adeptes du Seigneur des Anneaux qui nous bombardent. J'étais un peu moins dans cet univers-là, mais c'était Saruman.
Le Saruman, donc voilà. Donc, je savais qu'il avait joué dans le Seigneur des Anneaux, mais j'étais vraiment pas... c'est pas dans ma palette, ça, le Seigneur des Anneaux. Mais je savais qu'il avait joué un rôle marquant dans ce film-là.
Donc, c'était un acteur britannique, juste pour faire boucler la boucle. Là, c'est un des plus prolifiques, d'ailleurs. T'as parlé de lui et d'un autre acteur, à quel point ils étaient dans tous les films du cinéma d'horreur. Il y a 225 films dans sa vie. Il a eu 225 films à son actif. C'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment incroyable. Et comme je le mentionne, dans les années 60, dès qu'on voyait un film Hammer, c'était certain qu'il y avait ou bien Christopher Lee ou bien Peter Cushing ou les deux ensemble. C'était des incontournables. Et pour aller à la pause, ben faut savoir que le roman de Mary Shelley a été porté à l'écran un peu comme on avait porté à l'écran en s'inspirant directement du roman Dracula. Hein. On se rappelle le film Dracula de 1995 ou 96, là, quelque chose comme ça. Où l'on s'était directement, on avait directement adapté le roman de Bram Stoker. Donc, le titre du film, c'était Bram Stoker Dracula. Je pense que c'est Coppola, je crois, qui avait fait ce film-là. Et on a fait également la même chose avec le roman de Mary Shelley. Et on a fait en 1995 Mary Shelley's Frankenstein. Donc, si tu veux, pour aller à la pause, on peut écouter la bande-annonce de ce film qui était une adaptation directe du roman de Mary Shelley. Et dans lequel Robert De Niro incarnait le monstre.
Ah, parfait. Puis on fait une courte pause. Vous écoutez Radio X Files, ici même sur Radio X.
No one need ever die. I will stop this. No, you can't achieve death. We won't know unless we try. I warn you, what you are suggesting is not only illegal, it is immoral.
What's happened to you?
Yes. That's the combination.
Yeah.
X-Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
19h48, à chaque fois qu'on est en onde, Christian, et que tu nous racontes ces histoires-là, on a toujours de bons commentaires des auditeurs. On en a un par texto en ce moment. Wow! Cette émission se place sur mon podium officiel des meilleures histoires. Merci à Christian Page pour ça. Avant qu'on se laisse, Christian, je sais qu'on avait des éléments d'actualité qui concernent beaucoup les Égyptiens, les momies et les tombeaux. Je sais qu'on a une petite nouvelle concernant la momie de Néfertiti et aussi une possible chambre, une autre chambre secrète dans le tombeau de Toutankhamon. Est-ce possible?
Et les deux sont contradictoires et tu vas le comprendre. Simplement faire un aparté ici. Oui. Au moment de se laisser, je t'ai parlé du film de Coppola, là, Bram Stoker, Dracula. Je suis allé vérifier durant la pause. C'est un film qui remonte à 1992.
OK.
Donc, je n'étais pas sûr de la date. J'ai dit 1995 ou quelque chose comme ça, mais c'était 1992.
On a fait le correctif.
Voilà. Donc, parlant de la momie de Néfertiti, tu vas comprendre pourquoi les deux nouvelles sont contradictoires. Donc, dans un premier temps, on a Zahi Hawass, qui est l'ancien ministre des Antiquités égyptiennes, qui, il y a quelques jours, il était de passage à Madrid pour faire une conférence sur le rôle des femmes dans l'Égypte antique. Et il a profité de cette annonce pour dire « Attendez-vous en octobre à une nouvelle sensationnelle. Je vais vous révéler ou bien la momie, hein, il est resté assez vague, ou bien la momie ou la localisation du tombeau de la reine Néfertiti. Donc, la reine Néfertiti, pour la situer un peu dans le contexte historique, c'est la mère de Toutankhamon. On connaît tous Toutankhamon, là, donc on fera pas l'historicité de toute la famille, là, mais bon, c'est Néfertiti en théorie. Je dis bien en théorie parce qu'on n'est pas certain que c'était la mère de Toutankhamon, mais c'était ou sa mère ou sa belle-mère. Une chose est certaine, c'est que Toutankhamon est le fils du pharaon Akhenaton. Mais Akhenaton avait plusieurs épouses, dont Néfertiti. Et on suppose que Néfertiti était ou bien la mère de Toutankhamon. Et tu vas comprendre où ça devient contradictoire. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va perdre les auditeurs. Okay. Mais tu vas comprendre où ça devient un peu compliqué, cette histoire-là. Donc, il dit, je vais vous révéler où se trouve le tombeau de Néfertiti ou encore l'identification de la momie de Néfertiti. Et là, tu dis, attends une minute, là, il y a quelque chose qui va pas bien. Parce que en théorie, on a la momie de Néfertiti et elle a été identifiée il y a quand même plusieurs années.
Mais il faut savoir aussi.
Donc, parce que c'est ça, il faut savoir qu'au début du 19e siècle, on a découvert dans la vallée des rois, dans le tombeau d'Amenhotep II, on a trouvé deux momies qui étaient placées dans une petite chambre funéraire. Donc, pas un grand tombeau. Visiblement, des momies qu'on avait déplacées. Et ces deux momies sont aujourd'hui conservées au musée du Caire, le musée des Antiquités égyptiennes au Caire. Et ces deux momies avaient été étiquetées à l'époque comme étant KV-21A et KV-21B. Et éventuellement, on a pu identifier que KV-21B est Axenamon. Et Axenamon a été l'épouse de Akhenaton, et après la mort d'Akhenaton, elle est devenue l'épouse de Toutankhamon, le fils. Il faut savoir également que Axenamon était la sœur de Toutankhamon, donc l'inceste était répandu dans ces règnes-là.
C'était de garder
donc,
le sang royal.
On a pu identifier que une des momies, celle qui porte le numéro 21B, KV-21B, c'est Axenamon. Et avec des analyses d'ADN, on a pu démontrer que cette momie, Axenamon, était bel et bien la sœur de Toutankhamon. Et on a pu démontrer que Axenamon est également la fille de l'autre momie qui a été trouvée dans le tombeau, qu'on avait étiquetée comme étant la Younger Lady ou la Young Lady. Et on a pu identifier que cette Younger Lady ou Young Lady était la mère d'Axenamon. Si Axenamon est la sœur de Toutankhamon, ben forcément, l'autre momie, la Younger Lady, ne peut être que Néfertiti. Tu comprends? Comment peux-tu avoir un frère si la mère de ton frère n'est pas ta mère? Tu sais, tu comprends-tu?
C'est même là, par exemple.
tu comprends? Ça devient un peu embrouillé de ça, mais tu dis, bon, comme c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inceste, mais il semble clair que la Younger Lady est la mère d'Axenamon, et comme Axenamon était la sœur de Toutankhamon, ben ça va de soi, et non pas la demi-sœur, mais bel et bien la sœur de Toutankhamon, ben forcément, la Younger Lady ne peut être que Néfertiti. Donc, si Zahi Hawass dit, ben voilà, je vais vous faire une révélation sur la momie de Néfertiti, ben poète, hein, c'est une vieille nouvelle parce que ça fait quand même des années que les archéologues, à partir de tests ADN, ont identifié la Younger Lady comme étant très vraisemblablement, c'est sûr qu'on n'a pas une certitude absolue, mais très vraisemblablement comme étant la momie de Néfertiti. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Néfertiti, qui a été une reine importante, qui a régné après la mort d'Akhenaton avant que Toutankhamon monte sur le trône, parce qu'il faut savoir que Toutankhamon, lorsque Akhenaton est décédé, il avait 10 ans, donc il a fallu que quelqu'un règne à la place du petit garçon de 10 ans, et ça a été justement Néfertiti. Et elle a donc préparé Toutankhamon à son rôle de pharaon. Donc c'est une reine importante, on la disait excessivement belle, on a un buste de Toutankhamon qui nous montre cette beauté extraordinaire qui est aujourd'hui conservée dans un musée en Allemagne. Et donc, la tombe de Néfertiti, qui était une reine importante, on suppose qu'elle devait avoir également un tombeau très important. Ça, on n'a jamais trouvé le tombeau de Néfertiti. On a visiblement trouvé sa momie qui avait été déplacée, jetée un peu comme une ordure, malheureusement, faut le dire, jetée un peu comme une ordure dans une sorte de décharge dans le tombeau d'Amenhotep II. Mais la tombe de Néfertiti, qui devait être une tombe royale, elle, on ne l'a jamais trouvée.
Okay.
Donc, notre première histoire, si Zahi Hawass veut faire du millage sur la tombe de Néfertiti, ben, faudra qu'il arrive avec quelque chose d'extraordinaire parce que, malheureusement, sur le plan historique ou archéologique, il y a de très bonnes chances que cette momie appelée Younger Lady, qui a été identifiée il y a quelques années comme étant vraisemblablement Néfertiti. Et là, on arrive avec notre autre nouvelle. L'autre nouvelle, c'est que, il y a un archéologue qui émet une hypothèse. Il dit qu'en regardant un cartouche dans le tombeau de Toutankhamon, il faut savoir que le tombeau de Toutankhamon a été découvert en 1922 et il est très particulier, ce tombeau. Non seulement c'est le seul tombeau pharaonique qui a été découvert à peu près intact, hein. Les pilleurs s'étaient aventurés dans une première chambre, mais n'ont pas été plus loin. Probablement, ils ont été surpris, ont quitté le tombeau, et avant d'avoir pu le piller de ses richesses, et le tombeau a sombré dans l'oubli de l'histoire, jusqu'à ce qu'en 1922, Howard Carter, un archéologue britannique, redécouvre le tombeau dans la Vallée des Rois. Donc, ce tombeau, il est merveilleux à cause de ses richesses, bien sûr, il nous a permis de voir à quoi ressemblait un tombeau royal, mais à moitié seulement, dans la mesure où le tombeau de Toutankhamon, pour un tombeau royal, ça ressemble à un garde-robe.
Okay.
Il est tout petit. Les tombeaux pharaoniques ou des grandes reines étaient gigantesques, à la hauteur du personnage. Or, le tombeau de Toutankhamon est tout petit. On dirait une remise. On descend un escalier, il y a 3 chambres. Merci, bonsoir. C'est un tombeau qui n'est pas à la hauteur du personnage. On aurait dû s'attendre à un tombeau gigantesque. Donc, les historiens émettent des hypothèses. On a rapidement fabriqué un tombeau parce que Toutankhamon est mort jeune. Hein, il est mort aux alentours de 19 ans.
Ah!
Il est mort, ouais, c'est ça. Donc, il est mort très jeune et il est mort subitement. Donc, il n'est pas mort d'une longue maladie, on n'a pas vu sa santé dépérir. D'ailleurs, il y a des hypothèses que Toutankhamon aurait peut-être été assassiné. Mais néanmoins, il meurt à l'âge de 19 ans, il surprend un peu le peuple. Donc, l'une des hypothèses avancées par les archéologues, c'est qu'on a fabriqué un tombeau à la sauvette, un petit tombeau, qu'on a décoré de manière pharaonique, entre guillemets, et on y a déposé la momie du pharaon. Mais cette hypothèse-là ne plaît pas à tous les archéologues. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette hypothèse, dans cette vision-là, et les archéologues qui s'opposent à cette idée croient, et là, il faut le démontrer, croient que le tombeau de Toutankhamon aurait pu être aménagé par-dessus ou au bout d'un tombeau plus important. Donc, comme si le tombeau de Toutankhamon avait des faux murs et que derrière ces murs, il y avait un tombeau royal plus important. Et comme Toutankhamon est techniquement le beau-fils ou le fils de Néfertiti, bon, on se dit qu'il aurait été normal que si on avait décidé d'aménager une tombe royale à la sauvette, on aurait pu utiliser une antichambre d'une tombe royale et pourquoi pas la tombe royale de Néfertiti puisqu'on l'a jamais trouvée. La problématique à cette hypothèse-là, c'est que, un, Là, cette hypothèse-là vient de ressurgir parce que de nouvelles analyses, on a regardé un cartouche et on croit que ce cartouche-là aurait pu être modifié. Le cartouche, c'est quand on regarde des hiéroglyphes égyptiens, ce sont les noms des pharaons qui sont inscrits généralement comme dans un cercle. Hein, tu regardes un hiéroglyphe, d'un coup, tu vois un cercle avec des symboles dans le cercle. Donc, on a l'impression, en tout cas, l'une des hypothèses avancées par cet archéologue, un dénommé Reeves, lui, il dit, ben voilà, j'ai l'impression qu'en regardant sur le mur nord du tombeau de Toutankhamon, on a l'impression qu'un cartouche a été changé, a été modifié. Et si on se réfère aux traces qui seraient derrière, il indiquerait que c'était plutôt le tombeau de Néfertiti et non pas celui de Toutankhamon. C'est un peu comme si on avait ajouté le nom de Toutankhamon par-dessus un cartouche qui mentionnait Néfertiti. Ça reste à démontrer. Bon, j'ai pris connaissance un peu des documents qu'on propose. Ça semble très laborieux comme hypothèse. Et il faut dire qu'à deux reprises, cette hypothèse-là qui circule dans les milieux de l'archéologie, on a tenté de la vérifier. Dans un premier temps, en 2015, lorsqu'on a passé la tombe de Toutankhamon au rayon X, on a rien trouvé. C'est vrai que l'un des murs du tombeau est fait en plâtre, alors que les autres murs semblent directement sculptés dans le roc. Donc, on peut se poser des questions, pourquoi le mur nord est-il en plâtre? Mais en 2015, on a passé ce mur-là au rayon X et on n'a pas vu aucune cavité derrière.
Et là, si on s'est trompé, il faut remettre en question toutes les identifications qu'on a faites de tombeau.
T'as tout compris.
Là, c'est ça.
Si c'est vrai que derrière, donc là, cette hypothèse-là est ramenée sur le devant de la scène avec cette histoire de carte touche qu'on aurait modifié pour faire croire que c'était uniquement le tombeau de Toutankhamon. Si cette hypothèse-là devait se révéler exacte, ça voudrait donc dire que peut-être que derrière le tombeau de Toutankhamon, il y a la tombe de Néfertiti. Mais s'il y a la tombe de Néfertiti derrière le tombeau de Toutankhamon qui n'a jamais été pillé, comment expliquer qu'on aurait trouvé la momie de Néfertiti dans une autre tombe? C'est pourquoi ces deux hypothèses-là s'opposent. Ou bien la Younger Lady conservée actuellement au musée des Antiquités égyptiennes au Caire est bel et bien la momie de Néfertiti, ou bien on a fait une erreur d'identification et on n'a toujours pas la tombe de Néfertiti ni non plus sa momie. Donc c'est un débat qui est fascinant parce qu'il oppose deux écoles de pensée et tout ça autour d'un seul personnage assez insignifiant, faut quand même le dire, parce que le roi Toutankhamon, le pharaon Toutankhamon, est un personnage tout à fait secondaire dans l'histoire de l'Égypte. Il n'a pas régné suffisamment. La seule chose vraiment qu'il a fait, Son père, Akhenaton, est considéré ce qu'on appelle un peu le pharaon hérétique. Parce qu'à l'époque, l'Égypte avait plusieurs des dieux pour à peu près n'importe quoi. Un dieu pour le vent, un dieu pour le soleil, un dieu pour la pluie. Et Akhenaton, lui, lorsqu'il est arrivé, a fait table rase de ça. Il dit, dorénavant, on va rendre hommage qu'à un seul dieu, le dieu du soleil. Il a fait table rase de tous les autres dieux. Et ça l'a pas plu au peuple égyptien. Hein, quand ça fait des générations qu'on vénère des dieux, un dieu de la pluie, un dieu du vent, un dieu du sable, et tout d'un coup, hop, on nous dit qu'il n'a rien qu'un dieu. Donc, le pharaon Akhenaton, c'est le pharaon détesté du peuple et jugé comme un hérétique. La première chose que Toutankhamon a fait en montant sur le trône, ça a été d'abolir cette modification apportée par son père et de permettre au peuple égyptien de reprendre la vénération de tous les dieux d'avant. Donc, on revient à l'ancienne théologie d'avant, si je puis dire. Okay. Donc, c'est la grande œuvre de Toutankhamon, mais fondamentalement, dans l'histoire de l'expansion de l'Égypte et des conquêtes de l'Égypte antique, Toutankhamon est un personnage tout à fait secondaire. Il n'eût été la découverte de sa tombe, ben, probablement qu'on n'aurait aucun souvenir de Toutankhamon. En fait, il apparaît à peu près nulle part. Lorsqu'on regarde les textes, les hiéroglyphes retrouvés un peu partout en Égypte, on parle de grands pharaons, d'Amenhotep, on parle de Ramsès, mais le nom de Toutankhamon n'est jamais évoqué. C'est vraiment un personnage totalement insignifiant dans l'histoire de l'Égypte antique. C'est sa tombe, la découverte de sa tombe et ses richesses qui l'ont rendu célèbre.
Peut-être que c'est lui qui a régné en étant le plus jeune ou décédé le plus jeune, mais ce n'est que ça. Je trouve ça tellement fascinant. Moi, avoir été dans une autre vie avec plus d'études poussées, meilleure en maths, j'aurais aimé ça être archéologue. Fait quand on parle d'archéologie, c'est normal qu'on dépasse un peu notre temps parce que ça me passionne trop, Christine.
Ben, je comprends. Puis moi aussi, ça me passionne. Hein. Je prends connaissance de tous ces débats-là et puis ça me fascine, cette histoire de l'Égypte antique.
C'est une remise en question de l'histoire et de la science en même temps. Mais je te remercie pour ça. On reprend demain. Demain, ça promet. Je suis toute énervée. Dernière chance pour les auditeurs d'écouter au moins un épisode, et c'est mon cas, de Jeffrey Dahmer, parce qu'on se lance dans...
On va quand même faire quelques... On va spoiler un petit peu demain.
Oui, oui, oui. Alerte aux spoilers et aux âmes sensibles. J'ai vu des commentaires sur les Facebook de ce monde comme quoi c'est assez cru comme série. Le personnage l'est tout autant. On s'en parle demain, Christian. Je te remercie. Absolument. D'avoir été là.
Parfait. Bonne soirée.
À demain. Bye-bye.